Bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous voilà revenus pour une petite webconf, je ne vais pas dire mensuelle, mais quasiment. Voilà, eh bien, je ne vais pas perdre de temps, puisque j'ai tendance à être un petit peu bavard, vous le savez bien. Donc, je vais commencer à lire le document que Brigitte m'a envoyé, qui regroupe, excusez-moi, toutes les questions qui ont été envoyées sur le blog. Alors, on va commencer par gérer la vague de l'émotionnel. Une question de Jean-Pierre. Comment dépasser la dualité action-réaction qui touche la corde sensible de nos émotions pour arriver à une forme de dualité créative? Alors, c'est une question un petit peu bizarre, je dirais, puisque dépasser la dualité action-réaction, c'est tout simplement ne plus avoir aucun jugement en quoi que ce soit sur ce qu'il y a autour de nous. Et donc, s'il n'y a absolument aucun jugement, eh bien, à ce moment-là, nous ne sommes plus dans la réaction. La réaction dans le sens, on va dire, physique du terme. Donc, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'émotion. Il y aura probablement des émotions. Mais ceci n'est pas en relation directe avec ce que pourrait appeler Jean-Pierre la dualité créative. La dualité n'est pas créative en soi. Elle est. Donc, elle ne va pas chercher à mieux faire. Donc il n'y a pas de dualité créative. On ne peut pas mettre des choses en opposition afin de voir qu'on puisse en tirer le meilleur. Donc la dualité est comprise principalement dans notre monde de 3D comme étant une opposition entre deux polarités. On devient véritablement créatif quand il n'y a plus d'opposition, mais une totale complémentarité sans aucun jugement. Et donc, la créativité à ce moment-là n'est pas quelque chose qui, je dirais, nous sort soi-disant du cerveau et de tout ça. Bien au contraire, c'est que tout simplement, ce qui était déjà là, eh bien, nous pouvons le lire. En clair, l'être humain, le préhumain, ne crée rien. Il ne fait qu'exprimer ce qu'il voit. Ce qu'il voit dans d'autres dimensions, dans d'autres espaces-temps. Et il ne fait que le mettre. Je dirais en réalité 3D, on va dire. Mais il ne crée rien. Il ne crée absolument rien du tout, hein. Donc il n'y a pas à chercher une dualité créative. Simplement, le fait d'être soi suffit. Et vous vous surprendrez vous-même à voir que vous avez une créativité, mais non pas une créativité basée sur un ego, un intellect, un mental et tout ce que vous voulez. C'est en fait une capacité à lire autre chose ailleurs. Voilà. Donc à ce moment-là, il n'y a absolument aucun jeu d'ego et d'être fier qu'on est créatif ou pas. Puisque par définition, une fois que nous serons arrivés en 5D, tout le monde sera créatif. Alors une question de Laura. Vous dites qu'il est normal d'avoir des hauts et des bas avec la métaphore de la vague qui monte et qui descend. Seulement, pour les personnes en contact avec la 4D, cet écart n'est-il pas moins grand? N'ont-ils pas un centrage sur eux, même régulier? Alors, comme je disais, il est normal d'avoir des hauts et des bas, puisque nous ne pouvons pas contrôler la hauteur des vagues de l'océan. Nous sommes sur un océan, et bien sûr, il y a des mouvements de vagues, hein, puisque tout va dépendre, de tas de facteurs qui nous dépassent complètement. Donc, la seule différence entre quelqu'un qui est en 4D et celui qui est en 3D, c'est que celui qui est en 3D, eh bien, il a peur de ses vagues et il croit que quand il va arriver en haut d'une vague, il va y rester. C'est de l'ignorance à l'état pur. Et donc, à chaque fois que ça redescend, il fait la gueule. Donc, la personne qui est en 4D, elle sait que s'il y a un haut, il y aura un bas. Puisque c'est l'objectif même de la vie. C'est la variation entre deux opposés, hein, entre un haut et un bas. Donc lui, eh bien, il est centré par rapport à ça. En clair, eh bien, si les vagues viennent à lui, il est sur son bateau, centré et face à la vague. Et non pas, on va dire, la vague de travers. Car quand vous prenez la vague de travers, vous risquez de chavirer. Et c'est pour ça que quand nous sommes en 3D, ne sachant pas que ce sont des vagues, eh bien, on n'arrive pas à se centrer, c'est-à-dire à s'aligner perpendiculairement aux vagues. Et à ce moment-là, eh bien, quand on est en 4D, eh bien, on monte. On descend, mais il n'y a pas de jugement aussi bien dans la montée que dans la descente. Il y a ce qui est, et on regarde comment, on dira, la vaisselle bouge dans le bateau, quoi. Et si la vaisselle ne bouge quasiment pas, Ça veut dire que vous êtes exactement en équilibre, je dirais, avec la vague. Et donc, la vague, elle va passer, mais vous, vous allez, en fait, vous flotter. Vous allez monter sur un axe vertical, mais en fait, c'est la vague qui passe en dessous de vous. C'est pas vous qui montez la vague, en fait. Donc, être dans son unicité, c'est simplement accepter ce qui est et se laisser porter par la vague. Mais vous n'avez absolument aucun contrôle sur la vague, que vous soyez en 4D, 5D, 6D ou ce que vous voulez. Le seul contrôle que vous avez, c'est simplement faire un avec la vague. Donc au lieu d'en avoir peur et d'être déstabilisé, eh bien vous êtes plus en harmonie, en syntonie avec elle. Et à ce moment-là, bah, vos émotions, eh bien ça ne va pas gigoter. Ça va pas gigoter du tout. Comme on dit, la vaisselle bougera pas beaucoup. Elle tombera pas par terre. Voilà. Donc, ce qui est régulier, c'est en fait se laisser porter, ne porter aucune résistance, en faisant en sorte qu'on soit toujours perpendiculaire à cette vague, afin de ne pas chavirer d'un côté ou d'un autre. Alors ensuite, le second thème, c'est être. Alors, on me demande de mettre mon micro un peu plus fort. Je vois seulement le message maintenant. Hop, on va mettre un petit peu plus fort, voilà. Alors, être, Louise, comment arriver à être tout le temps alors que tout est mouvement au niveau des énergies et que toutes les mémoires remontent pour nettoyage? Alors, on ne peut pas arriver à être tout le temps parce que vouloir arriver à être est une volonté du mental ego. Quand vous êtes, vous ne pensez pas que vous êtes dans l'être. Vous êtes. Donc, à chaque fois que vous pensez qu'il faut être, c'est que vous n'êtes pas dans l'être. Donc, quel que soit le mouvement qu'il y a autour de vous, et quel que soit, on peut dire, toutes les mémoires qui remontent, elles remontent. Pour nettoyage, pas forcément, elles remontent. Elles sont là, vous regardez ce qui est, et vous ne posez pas vraiment de questions. Puisque plus vous allez vous poser de questions, et plus vous serez embarqué dans votre mental ego. Donc, le truc, si vous pensez que vous êtes à côté de l'être, c'est que effectivement, vous êtes dans votre mental. Parce que quand vous êtes, vous ne pouvez pas du tout, je dirais, penser, vous poser la question si vous êtes ou si vous n'êtes pas. Voilà. Alors, le thème joie, neutralité et non-jugement, une question de Cathy. Peux-tu revenir sur la notion de neutralité et de non-jugement? Si je comprends bien qu'il ne faut pas juger les situations selon les termes bien, mal, positif, négatif, issus de la dualité de 3D, mais les accepter telles qu'elles sont, pour ce qu'elles sont, en toute transparence et neutralité. Je me demandais du coup s'il y a lieu de se réjouir, pourquoi que ce soit alors? Je veux dire, peut-on se réjouir, voire s'enthousiasmer d'une situation que l'on trouve agréable? Positive ou rester dans la neutralité présuppose-t-il en toutes circonstances d'être transparent à tout, justement? Comment être dans la joie si je suis neutre? Alors là, il y a un petit peu la confusion des genres. C'est-à-dire, une neutralité veut dire poser aucun jugement. Mais cela ne veut pas dire que vous n'allez rien ressentir. Bien au contraire, parce que vous ne mettez aucun jugement. Eh bien, vous serez de cette façon plus transparent. C'est-à-dire que ce qui se passera en vous viendra plus facilement à s'exprimer. Donc, il n'est jamais dit que d'être dans le non-jugement était une neutralité. Et que la neutralité était l'absence, on va dire, de ressenti ou de joie ou de. Non. Il peut venir à vous n'importe quoi. C'est que tout simplement, vous regardez. Donc, si vous voyez, comme dit, une merde remonter à la surface, ben vous la regardez, puis vous dites c'est. Et puis, si vous voyez remonter, je ne sais pas, moi, une fleur, un lotus ou n'importe quoi, ou une sirène, vous dites c'est. Vous n'aurez pas la même réaction. Et c'est simplement cette réaction que vous allez regarder pour ce qu'elle est. Donc, c'est là qu'intervient le non-jugement, dans le sens que vous ne pourrez pas dire « Ah non, mais j'ai pas le droit de penser ça. Ah non, la sirène, non, non, elle est trop déshabillée, il faudra lui mettre un soutien-gorge. Ah non, non, ça, voilà. » C'est en cela qu'il ne faut pas faire. C'est de poser une étiquette, de mettre un jugement sur ce qui se passe en vous. Et c'est ainsi, dans cette transparence, que vous allez découvrir qui vous êtes véritablement. Alors, la dernière phrase, comment être dans la joie si je suis neutre? La joie, ce n'est pas quelque chose que tu décides, c'est quelque chose qui émerge de toi. Donc, si tu es neutre, il y a plus de chances qu'elle émerge, puisqu'elle ne sera pas flinguée comme à l'automne. Vous savez, la saison des canards, on tire à vue. Non, pas du tout. La joie, c'est l'harmonie dégagée entre ce que vous êtes et la vibration qui vous touche. Donc, quand vous êtes en joie, ça veut dire que ça roule. Donc, il n'y a pas à se poser la question, suis-je neutre? La joie est une conséquence. C'est un effet, c'est le résultat de quelque chose. Mais ce n'est pas l'origine d'une chose. Hein? Donc, si vous cherchez à être en joie, c'est difficile. Puisqu'il va falloir aller chercher dans vos souvenirs, il va falloir aller chercher des choses qui ont été plaisantes en vous, afin de pouvoir restimuler ou resimuler la chose. Mais vous ne pouvez pas être en joie parce que vous voulez être en joie. La joie est la conséquence de quelque chose. Donc, généralement, si vous voulez être en joie, n'y pensez pas. Et vous verrez que vous le serez. Parce que justement, vous n'y pensez pas. Donc, vous n'êtes forcément pas dans le jugement. Vous n'êtes pas dans l'analyse. Vous êtes. Alors, maintenant, on va passer à l'autre thème, un petit peu de vocabulaire. Il y a Catherine qui dit, voilà, âme, moi supérieur et théorie du dédoublement de Jean-Pierre Garnier-Mallet, un rapport, point d'interrogation. Alors pour cela, il y a trois articles que j'ai écrits là-dessus, concernant le double, concernant l'âme et concernant le moi supérieur. Donc ceci sera dans le sommaire qui paraîtra donc lundi, avec les questions bien sûr, sur le blog. Hein, donc je ne vais pas vous indiquer l'adresse du web, enfin des articles, puisque de toute façon, ça sera en ligne directement. Donc là, je ne vais pas y répondre, ça ne sert à rien, puisque j'y ai déjà répondu. Écoutez son cœur. Une question d'étoile bleue. En écoutant mon cœur, je peux avancer sans projet, point d'interrogation. A priori, oui, mais qu'en penses-tu, Laurent? Alors, je trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui me lancent un truc et ensuite me disent, qu'en penses-tu? C'est-à-dire, en fait, je devrais raconter tout ce que je pense de quelque chose. Or, vous seriez surpris que je ne pense pas beaucoup, moi, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Je ne pense pas vraiment parce que plus on est vide dans le crâne, quelque part, et plus ça résonne mieux. Ça résonne mieux, RE, hein, d'accord? C'est-à-dire plus la vibration va pouvoir, je dirais, faire son effet. Donc, d'une certaine manière, en écoutant mon cœur, je peux avancer sans projet, oui. Qu'est-ce que j'en pense? Rien de spécial, sinon que plus on fait le vide mental, d'une certaine manière, sans vouloir faire le vide mental, hein, puisque si vous voulez faire le vide mental, vous allez forcément avoir des ennuis. Donc, des ennuis parce que vous n'y arriverez pas, parce que le mental, c'est comme un gamin qui est énervé, il vous dit calme-toi, il va continuer à gesticuler, et ça sera seulement quand il sera fatigué que il ira dormir, quoi. Donc, plus vous essayez de vous calmer, et moins vous y arriverez d'une certaine manière, mentalement parlant. Hein. Donc, il n'y a pas de projet, parce qu'un projet, c'est forcément une projection du mental ego sur un futur possible, probable. Donc, forcément, si tu écoutes ton cœur, tu es en 4D, et donc tu ne peux pas avoir de projet. Donc, tu mets a priori oui, donc tu doutes, tu dis mentalement, je le conçois, mais en fait, je ne le vis pas. Voilà, voilà ce que j'en pense. Alors maintenant sur l'unité, une question de Ganga. J'ai lu dans un livre qu'on était juste des marionnettes de la source divine, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise. Il faut juste être non agissant pour faire un avec la vie. Et là, re-question, qu'en penses-tu? Eh bien, ce que j'en pense, c'est que j'en ai déjà parlé moult fois, dans beaucoup d'articles, que nous sommes des marionnettes. Donc la marionnette sera dans son véritable rôle quand elle écoutera totalement ce qu'on lui demande de faire. On ne demande pas à la marionnette d'imaginer un scénario et de faire de l'improvisation sur la scène. Parce qu'en fait, de toute façon, tout ce qu'elle peut improviser sera du niveau de son ignorance. Donc, imaginez le marionnettiste qui essaye de faire bouger sa marionnette et la marionnette fait ce qu'elle veut quand elle veut. Ça va pas jouer terrible. Et c'est ce que nous faisons depuis des millénaires. Hein. Nous essayons en tant que marionnettes d'avoir une activité individuelle où on nous a fait penser que nous devions agir sur notre vie pour faire notre vie. Nous n'avons à faire rien du tout, sinon à écouter ce que l'on nous demande de faire. Car rappelez-vous, nous sommes un esprit, entre guillemets, on va dire supérieur dans un certain sens par rapport à celui du mental ego. Nous sommes un esprit venu expérimenter la matière. Et donc, il demande à sa partie incarnée de suivre les consignes. Donc, si vous ne suivez pas les consignes, si votre corps ne suit pas les consignes, ça sera un petit peu comme conduire votre voiture. Vous tournez le volant à gauche et elle tourne à droite. Est-ce que vous seriez contente? Non. Donc, c'est ça. Nous sommes des marionnettes, et quoi qu'on fasse et quoi qu'on dise, de toute façon, nous n'avons aucun, je dirais, aucune possibilité véritablement d'échapper à ce que nous devons vivre. Donc, bien sûr, si vous dites je vais tourner à droite alors qu'on me demande de tourner à gauche, c'est bien, mais ça fera comme une déviation. Tôt ou tard, vous allez revenir à l'endroit qui était prévu où vous deviez passer. Donc, vous pouvez toujours tournicoter à droite ou à gauche. De toute façon, vous passerez dans le patelin où il faut que vous passiez. Le seul truc, c'est que vous allez perdre énormément de temps. Vous allez avoir bien sûr des ennuis et que bah, quelque part, il vous faudra quelques vies supplémentaires pour pouvoir, je dirais, avancer, c'est-à-dire bah, récupérer le retard. Il n'y a pas de retard en soi, mais d'une certaine manière, on peut dire quand même que vous aurez plus de boulot. Donc, quand on met en œuvre la loi de l'un, eh bien, on sait pertinemment que l'on abandonne toute option de projet, toute option de maîtrise de sa vie, toute option de j'aimerais ceci parce que je pense que c'est le bonheur. Rien. Vous suivez simplement la route. Et vous allez découvrir des plaisirs et des bonheurs dont vous n'avez absolument aucune idée, parce que bien sûr, ils ne font pas partie de la littérature religieuse ou de la littérature spirituelle ou de la littérature politico, tout ce que vous voulez, et même pour le boulot et compagnie. Vous aurez ce dont vous aurez besoin pour accomplir votre tâche, c'est-à-dire celle d'être vous-même. C'est tout? Voilà, donc ça c'était pour répondre à Ganga. Faire un, c'est abandonner totalement notre libre arbitre. C'est-à-dire faire en sorte que notre petite personnalité qui se la joue, eh bien, n'a plus le droit au chapitre. On laisse la place au grand frère, comme on dit. Hein? Donc moi j'appelle ça le soi supérieur, mais c'est le grand frère. Le grand frère, il nous dit ce qu'on a à faire. Et on a confiance. Il nous tient la main. Et s'il dit il faut aller tout droit, bah on suit. On est un enfant. Dans la lumière du cœur, je suis. Une question de Lucie. Lorsqu'on fait l'expérience du je suis, qu'est-ce qui est contacté? Le soi supérieur, l'âme ou la source? Ben, en fait, ça sera la chose qui sera la plus proche de toi. D'abord, il faudra passer par l'âme pour atteindre le soi supérieur, parce que souvent dans mes écrits, je mets l'âme et le soi supérieur au même niveau, mais il y a une petite nuance. Il y a une petite nuance, mais c'est vrai que pour l'instant, je ne l'introduis pas dans mes écrits parce qu'autrement, ça va confusionner à mort. Donc, on a déjà des problèmes avec ceux, vous savez, qui ont les différentes notions et définitions de Dieu. Donc, pour certains, Dieu, c'est le septième chakra. Pour d'autres, c'est encore plus haut. Puis pour d'autres, c'est encore beaucoup plus fort. Donc, tout ça, j'en ai déjà parlé sur 5D6D. Mais globalement, il y a un chemin. Et on ne peut pas, comment dirait l'autre, prendre des raccourcis. Donc, nous allons forcément, quand nous faisons l'expérience du je suis, nous commençons à prendre conscience de notre âme. Et puis rapidement, on découvrira que notre âme est une toute petite partie de notre soi supérieur. Ce n'est pas le soi supérieur en entier, c'est une petite partie du soi supérieur. Je dirais pour être plus précis, c'est le septième chakra dans le sens où le septième chakra est incarné d'une certaine manière, hein, visible, contactable, on peut dire directement par rapport à notre corps, mais que notre soi supérieur, c'est quand même aussi le 8, 9, 10, 11 et 12. Donc notre âme, c'est quelque chose qui nous paraît concret d'une certaine manière, mais qui serait globalement, on va dire, l'équivalent du moteur de la Terre, mais pour notre soi supérieur, c'est-à-dire la 7D, 8D, globalement. Alors il est évident que dès que vous êtes en contact avec votre soi supérieur, automatiquement, vous serez en contact avec le grand soi. Parce que, entre le soleil et nous, c'est le petit soi. Qu'il soit inférieur ou supérieur, ça reste toujours le petit soi, hein, c'est-à-dire la partie masculine qui s'incarne. Par contre, le grand soi, entre le soleil et, on va dire, et le centre de la galaxie Alcyone, lui, bien sûr, va nous permettre d'aller beaucoup plus loin. Donc quand nous disons la source, c'est comme si nous remontions d'une certaine manière à une rivière, hein, ou la sève de la branche, qui, on part de la feuille, on va en direction du tronc. Donc, quelque part, eh bien, tout est source quand vous remontez le courant, parce que vous savez que vous allez de toute façon vous rapprocher de plus en plus de l'origine de où ça vient. Donc la source est toujours contactable. Mais elle est contactable d'abord à travers, on va dire, la partie du soi supérieur qui est la plus proche de nous et qu'on va appeler d'une certaine manière l'âme. Donc il y a un article, hein, qui cause des définitions de Dieu selon les dimensions et qui donne à peu près aussi une notion de selon l'ouverture, on peut dire, mentale des individus, eh bien il peut y avoir, je dirais, des définitions différentes du même mot. Multidimensionnalité. Dans quelle dimension les anges vibrent-ils? Une question d'André. Alors, c'est une question d'enfant. Parce que les anges, c'est quoi? C'est ça la vraie question. Les anges, en fait, ce sont par définition des entités non incarnées. Hein, c'est ce que nous donnons comme définition. Nous sommes un ange incarné. Donc, dans quelle dimension? Quand nous voyons déjà à notre niveau, nous voyageons dans plusieurs dimensions à la fois, et même beaucoup. Hein, puisque si vous êtes fait avec un squelette, vous êtes dans le monde de la 1D, du monde minéral. Si vous avez des muscles, vous êtes dans le monde végétal. Si vous avez, je dirais, un mental, un système nerveux, vous êtes forcément dans le monde animal. Si vous avez un cœur et que vous avez des émotions, vous êtes dans un monde de 4D. Donc en fait, il y a la 5D, 6D, 7D. Donc nous vivons dans plein de dimensions en même temps. Donc les anges ne vivent pas dans une dimension, ils vivent dans toutes les dimensions. Simplement, nous les percevons sous la forme vibratoire. Parce que s'il se présentait sous une forme, on va dire, incarnée, on ne dirait pas que ce serait des anges. Pourtant, quand vous regardez certains enfants ou certaines personnes, vous avez vraiment l'impression de regarder un ange. Donc ça, c'est simplement un langage de 3D. Hein. Quand on dit « il y a les anges et puis il y a nous », c'est simplement pour faire la différence entre celui qui nous cause vibratoirement, et qu'on se dit, il n'est pas dans un corps, il a des ailes, il peut se balader partout, hein, il est innocent, enfin il a toutes les qualités qu'on veut lui donner, hein, et globalement, c'est simplement une projection séparative de 3D. Mais dans la réalité, vous le savez tous, nous sommes des anges, tous. Simplement, quand vous serez en 4D, vous allez le réaliser plus facilement, parce que vous allez voir la beauté des gens. Et en voyant la beauté des gens, ça sera la beauté intérieure, et donc de l'ange qui l'habite. Alors, une question de Raymond. Lorsque je visualise ta vidéo, l'étagement clavier-statue, je me pose la question suivante. Est-ce que je peux me situer en même temps, partiellement en 4D et 5D, entre parenthèses 4D+, ou je ne peux atteindre la 5D que lorsque ma réalité 4D sera totale? Merci pour ton éclairage. Alors, la question est à double tranchant, on peut dire, il y a deux côtés. C'est-à-dire que nous voyageons, rappelez-vous, au niveau de notre corps, nous avons sept chakras, donc nous allons de la 1D à la 7D de base. Donc nous voyageons bien sûr en 5D, et puis en 6D, et puis aussi en 7D, mais simplement on en est nettement moins conscient. Néanmoins, on y va. Simplement, on n'a pas stabilisé, on va dire. C'est-à-dire que globalement, plus un individu augmente sa vibration, plus cela veut dire qu'il va dans des dimensions supérieures en termes de fréquence. Donc forcément, quand nous sommes en 3D, eh bien nous allons faire des voyages en 4D et puis aussi en 5D. Vous savez, je vous rappelle que la 5D, c'est simplement quand vous rêvez. Quand la nuit vous rêvez, vous êtes en 5D. Quand la nuit vous rêvez et que vous prenez les commandes de votre rêve, vous êtes en 6D. Donc, quelque part, nous voyageons dans toutes ces dimensions à la fois. Hein, donc, faites une petite sieste et vous allez voir que vous allez passer rapidement dans toutes les dimensions. Donc, pour répondre à la question, c'est seulement quand on aura véritablement, je dirais, quand on sera véritablement sorti de la 3D, qu'on vivra vraiment comme des gens de 4D, c'est-à-dire dans la vibration et qui ne voient que la vibration, c'est-à-dire qui ne voient que l'un. Partout il regarde, alors à ce moment-là, il pourra effectivement passer en 5D. Et c'est le but du processus de l'ascension. Le processus de l'ascension, c'est toute la traversée 4D, c'est-à-dire celui qui sort de 3D pour arriver à la 5D. Donc, qui dit processus d'ascension, dit forcément stabilisation, on va dire découverte d'abord de la 4D, ensuite stabilisation dans la 4D, ensuite on va dire maîtrise de la 4D dans le sens que 4D plus, c'est-à-dire que vous commencez à être ce que vous êtes sans vous poser plus aucune question, et puis bah, arrive un moment, vous serez tellement stabilisé que vous pourrez passer en 5D définitivement. Hein? Donc la seule chose qui diffère, c'est que nous sommes dans un monde actuellement de 3D, 4D, et nous passerons dans un autre espace-temps qui s'appellera 5D, 6D. Donc ça sera une autre expérience, mais pour cela, comme on dit, hein, c'est un changement d'école, mais il faut déjà réussir l'examen, je dirais, final de l'école, quoi. Si vous n'avez pas la moyenne, eh bien, vous redoublez. Donc si vous êtes, je dirais, au collège, ben, vous n'irez pas au lycée. Hein, et puis si vous êtes au lycée, ben vous n'irez pas en université. Donc c'est juste un changement d'école. Mais il faut avoir, je dirais, je ne dis pas les bonnes notes, mais avoir atteint un degré de fréquence personnelle suffisant. Et donc cette fréquence, c'est bien le résultat de tout ce que vous êtes en action dans votre quotidien. Ce n'est pas un examen mental. C'est un examen d'être-té. Vous êtes ce que vous êtes. Et plus vous allez le vivre, et plus les choses deviendront faciles, évidentes, simples. Alors, une question de Tara. Je sais que tu es bien au-delà de la quatrième, cinquième dimension. Comment ça se fait que tu arrives à baisser et rehausser ta vibration, descendant en 3D, 4D pour nous, et remonter sans te polluer et régresser dans ton ascension permanente? Alors, il faut savoir que quand on est au collège, alors le collège, je crois, ma mémoire, c'est de la sixième à la troisième, c'est un truc comme ça. Alors, bien sûr, les élèves de troisième sont là aussi pour donner un coup de main en sixième. Et puis, je dirais, c'est la totalité, on va dire, des individus qui sont dans le collège qui devront passer tôt ou tard au lycée. Hein, on est d'accord. Donc, il n'y a pas à baisser sa fréquence ou à la rehausser. C'est que tout simplement, quand un élève de troisième s'adresse à quelqu'un qui est en sixième, en cinquième, en quatrième, eh bien, il est plus bienveillant, on va dire. C'est-à-dire qu'il sait que l'autre a encore plein de choses à apprendre, qu'il a encore plein de choses à découvrir. Alors, il ne va pas être intransigeant. Il ne va pas chercher à imposer ou à dominer. Il va simplement être un frère, un grand frère, qui veut simplement aider. Parce qu'il sait que lui ne pourra pas passer de toute façon au lycée tant que tous les autres ne seront pas, n'auront pas atteint, on va dire, la dernière classe, c'est-à-dire la troisième du collège. Donc, eh bien, il va le tourner en rond. Donc pour lui, ralentir sa vibration, c'est simplement parler moins vite, plus simplement, moins de concepts, et puis les autres, eh bien, vont s'enrichir de cette simplicité apparente. Parce que, en fait, plus nous avançons sur le chemin, et plus les choses deviennent simples, évidentes, criantes de vérité. Alors que quand on arrive en sixième, et si on vous balance tous les programmes, vous vous dites, mais c'est fou, j'apprendrai jamais tout ça. J'y comprends que dalle. C'est faux. Parce que si un grand frère vous explique simplement avec ses mots à lui, mais qui appartiennent au vocabulaire de celui de sixième, eh bien celui de sixième va progresser très vite. Donc il n'y a pas à abaisser sa fréquence, il y a juste à abaisser, on va dire, le débit. Juste à se faire comprendre. Hein, contrairement à ce que font beaucoup de gens qui se veulent spirituels ou, je dirais, hautement spirituels, qui utilisent des mots à dormir debout, où on ne comprend même pas ce que ça veut dire. Donc moi, il y a des tas de mots que je ne comprenais pas il y a une certaine époque, et vraiment, ça me gavait, quoi. Parce que je ne comprenais pas les mots. Il fallait que j'aie un dictionnaire permanent. Et ça, c'était le bordel. Et j'avouerais que j'ai laissé tomber tous ceux qui avaient un langage dit savant. Bah, je passais de mon chemin, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que de mon côté, je n'utilise pas de mots savants parce que j'aime pas ça. C'est créer la séparation. Quelqu'un vous domine par son vocabulaire et c'est pénible à la longue. Donc moi, pas de problème. Tu peux causer avec tes mots à toi, tu te comprends, c'est bien. Mais moi, je comprends rien de ce que tu me dis. Alors je passe mon chemin et je trouverai certainement quelqu'un qui saura me l'expliquer plus simplement. Parce que certes. Plus on est un spécialiste, un expert, plus il faut être précis. Oui, je suis d'accord. Mais être précis dans le mental ego ne sert pas à grand-chose. Parce que si vous écoutez votre vibration du cœur, je peux vous dire que vous n'avez pas besoin d'apprendre le dictionnaire par cœur. Donc moi, je n'ai pas appris le dictionnaire par cœur. Parce que j'en avais rien à faire, j'écoutais ma petite voix, et puis elle me disait ce qu'il fallait faire, je comprenais pas, je faisais mal, je m'en prenais une, je faisais bien, je sautillais comme, comme un mec en joie, puis j'ai dit bon bah c'est bon quoi, donc quand je suis en joie c'est que j'ai bien joué, si quand je suis pas en joie c'est que bon j'ai pas tout compris quoi. Et donc bah, on verra la prochaine fois, puisque de toute façon toute leçon non apprise, non comprise reviendra sur la table. Donc il n'y a pas de souci à se faire, hein. Ça reviendra. Donc, moi, j'ai toujours pris ça un peu, enfin, un peu, même complètement à la légère, dans le sens où il n'y a pas, je dois passer des examens, je dois faire des trucs, je dois me nettoyer. J'y suis allé à ma vitesse et puis en me disant que de toute façon, qu'est-ce qu'on va me faire, hein? Il n'y a que moi qui peux me faire du mal. Donc, de l'autre côté, ils mettront pas, ils vous feront pas de mal. Ils sont bienveillants. Mais ils ne pourront pas vous foutre la baffe, même si de temps en temps ça leur fourmille un peu dans les bras ou dans les mains. Mais non, ils ne peuvent pas. Donc, le résultat, ben, vous êtes vraiment maître dans votre maison. Hein, ça, c'est clair. Donc, il n'y a pas de pollution ou de régresser dans notre ascension. Il y a simplement à savoir que nous faisons un. Et donc, aider son prochain est quelque chose qui doit vous donner de l'énergie. Si ça ne vous donne pas de l'énergie, c'est que c'est à ce moment-là une compassion mentale. Hein, c'est-à-dire que vous avez mentalisé une certaine forme de compassion. Quand on est vraiment dans le don, eh ben, on se sent vachement bien. Et ça fait du bien. Alors des fois, bien sûr, ça fatigue un petit peu. Parce qu'à côté, ben, vous ramassez, on va dire d'une certaine manière, quelques lourdeurs. Mais c'est normal. C'est normal, donc enfin, on fait avec quoi. Je veux dire, si on est capable de pouvoir, je dirais, écoper quelques saloperies des autres, c'est parce qu'on est capable de les encaisser et de les transmuter. On ne peut pas recevoir plus que ce qu'on ne peut accepter. Donc, il faut faire confiance. S'il y a un grand frère qui dit, bon, viens là, il faut tirer le TGV parce qu'il est en rade. Bon, s'il te demande, c'est que par définition, tu es capable de le faire. Mais ça serait vraiment moqueur qu'un grand frère te dise, bah, viens tirer le TGV, puis qu'il se fout de ta gueule, parce qu'en fait, tu t'es fait avoir, quoi. Non, ça n'existe pas au niveau intérieur. Aucune petite voix ne vous demandera de faire des choses que vous ne pouvez pas faire. S'il y en a une qui vous le demande, Eh bien, dites-vous bien qu'il y a de fortes chances que soit c'est votre mental ego qui veut vous foutre une baffe et se moquer de vous afin de reprendre les rênes, ou soit que effectivement c'est une vérité, mais vous y croyez absolument pas. Donc, ne sachant jamais si quelque chose c'est du bon ou du pas bon, eh bien, le discernement devient important. Donc, à chaque fois qu'on m'a demandé de faire des choses, j'y suis allé, et puis j'ai regardé, et puis j'ai vu si ça marchait, si ça marchait pas. Et puis si ça voulait rien savoir, je me dis, ok, c'est bon. Pour l'instant, je suis pas assez musclé, on reverra ça plus tard, si ça se représente. Et puis je passe mon chemin. Il n'y a pas d'échec dans la vie de quelqu'un qui marche sur le chemin. Il n'y a que des leçons à apprendre. Et donc, toute chose, je veux dire, qui semblerait négative ou désobligeante ou qui vous déséquilibrerait n'est en fait qu'une petite baffe, qu'un petit truc pour vous permettre de mieux comprendre ce qu'il y a à vivre et à comprendre. Donc, c'est vrai qu'à une certaine époque de ma vie, j'étais plutôt un mercenaire, on va dire, mais au fil du temps, ça s'est adouci au point qu'à la fin, j'en avais plus rien à faire. Mais c'est vrai qu'il y avait une certaine envie, on va dire, de ne pas végéter. C'est normal. Hein? Tout le monde l'a. C'est, on ne peut pas aller contre, puisque ça fait partie de votre programme. Par contre, si on m'avait dit écris et dans quelques années tu vas causer, et puis il y a des tas de gens qui vont te suivre et qui vont te dire ouais, t'es super, etc. Ça, sincèrement, j'aurais pas cru. Donc, ça s'est fait, ça s'est fait, et puis voilà quoi. Mais sincèrement, j'en tire pas une fierté, je dirais de 3D quoi. Il n'y a pas de fierté à ça, c'est-à-dire je fais mon job et puis mon job, bah, si ça fait du bien, tant mieux. Puis si ça fait pas du bien pour certains, vu quelquefois les emails qu'on m'envoie, bon bah tant pis, c'est leur façon de voir. Vous savez, si vous saviez combien de gens veulent sauver mon âme, vous seriez surpris. Si vous savez aussi les derniers emails que j'ai reçus, on me parle de m'envoyer en maison, que je dois suivre des trucs de psychiatrie parce que je suis vraiment atteint. Je regarde, je souris, je me dis bon, bah, c'est leur vision. Moi, je fais ce que je fais, tant que j'ai pas les flics qui débarquent et qui me foutent en taule, je me dis qu'après tout, je dois pas être quand même dans le faux, quoi. Alors, changement en 5D, une question d'André. Comment concrètement passons-nous d'un corps carboné à un corps silicé? On change de voiture ou la deux chevaux se change en Ferrari? Et alors, comment? Eh bien, la chose est relativement simple. C'est à l'image de la croissance de ton corps. Quand tu es né, tu étais un petit tétard de rien du tout. Enfin, on va dire, on va partir du tétard de base qui s'appelle un spermatozoïde. Et ben, quand tu t'es retrouvé, comme dirait l'autre, dans une piscine, au plein milieu, on va dire, d'un ovule, est-ce que tu t'es posé la question comment il fallait que tu fasses? Non. Et après, bah, quand tu étais un embryon, est-ce que tu t'es posé la question qu'il fallait faire pousser le petit doigt plus vite que le majeur et puis qu'il fallait pas oublier le pouce? Non, rien. Ensuite, quand tu es sorti, bah, ça s'est fait les choses. Est-ce que quand tu es sorti, tu dis maintenant il faut que je respire, sinon je vais mourir? Non. Est-ce que tu t'es posé la question si, je veux dire, à n'importe quel âge de ta croissance physique, tu devais faire ceci ou ceci ou cela? Parce que si tu n'y pensais pas, ça allait aller à la catastrophe. Non. Tout s'est fait en automatique. Parce que nous sommes des esprits en expérimentation. Et bien qu'étant esprits, nous sommes quand même encore couverts du voile de l'oubli. Donc comment peut-on demander à un aveugle de conduire? Non? Donc, comment dire, la mécanique a été faite de telle manière qu'elle puisse grandir selon des voies précises, avec un circuit d'apprentissage précis, et que de toute façon, le chauffeur, il ne peut pas grand-chose là-dessus. La seule chose qu'il puisse faire, c'est plier la tôle, casser le moteur, faire cuire les frites dans l'huile de vidange, si vous voulez, mais quelque part, il ne peut que détruire. Tout le reste, c'est fait en automatique. Et si on écoutait véritablement notre corps, eh bien, il n'y aurait aucune maladie. Alors, il n'y aurait rien. Donc, pour répondre à la question de comment on va passer d'un corps carboné à un corps silicé, eh bien, en fait, ce n'est pas notre affaire. On n'a pas à savoir comment ça va se faire, parce que si on nous donnait le manuel, on serait suffisamment con pour dire qu'on n'est pas d'accord et introduire des changements qui mèneront forcément à des trucs pires que ce qui était prévu. Parce qu'on ne peut pas faire mieux, hein, je vous signale. Donc, point besoin de savoir comment la deux chevaux va se transformer en Ferrari et comment. On s'en fout. Le principal, c'est que vous, en tant que chauffeur, eh bien, vous découvriez le plaisir de conduire une deux chevaux, mais aussi celui de conduire une Ferrari. Croyez-moi, les sensations sont relativement identiques, enfin, dans un certain sens. Dans la Ferrari, vous n'allez pas vous prendre les nids de poule et les fossés facilement comme ça, et ça ne va pas tanguer comme dans une deux chevaux. Donc la deux chevaux vous offre des sensations, je dirais, d'équilibre que vous donnera pas la Ferrari, c'est évident. Mais la Ferrari vous donnera autre chose. Hein, c'est sûr que si vous appuyez sur l'accélérateur, vous allez sentir que il va falloir bien s'accrocher au volant et réagir vite, quoi. Alors qu'avec la deux chevaux, on a plus de temps quand même pour voir ce qui vient. Donc, point besoin de savoir, ça ne nous appartient pas. Voilà ce que je voulais dire. Une question de Mathieu. Quand nous serons en 5D, nous capterons beaucoup plus de fréquences à l'oreille, ce qui veut dire que cela va nous faire revoir tout en termes de solfège. Si je te suis, il y aura de nouveaux intervalles perceptibles et la composition musicale n'en sera que plus riche. Non? Si toutefois on peut composer là-haut. Alors là, bah, c'est toujours pareil. Nous allons effectivement avoir une capacité de capter, bien sûr, je dirais des bandes de fréquences que nous ne captons pas pour l'instant. Donc nous allons pouvoir entendre des choses que nous n'entendions pas avant. Hein, c'est toujours à l'image, je dirais, des différentes sensibilités musicales qu'il y a dans le monde. Il y a donc des pays, des peuples qui n'ont pas les mêmes solfèges que nous, d'une certaine manière. Le solfège, on va dire, occidental, s'est imposé au monde. Mais il y en a d'autres qui n'avaient pas ce solfège-là, ça ne les empêchait pas de faire de la musique, enfin, ce qu'ils appellent, eux, de la musique. Donc là, pareil. Nous allons nous adapter et si toutefois, comme tu dis, on peut composer là-haut, de toute façon, la plus grande composition que tu puisses faire, ça sera ta propre vibration. Donc, tu verras qu'il n'y aura plus besoin forcément d'un instrument, puisque tu seras l'instrument. Et puis, il n'y aura pas besoin d'apprendre le solfège. Musique. Une question de Coton la bretonneuse, la brodeuse, excusez-moi. Donc, pourquoi le passage du La 432 Hz au La 440 Hz? Super. Moi, j'ai rien pour mesurer les Hertz. Quelque part qu'on passe du 432 au 440, très bien. Ça veut dire qu'à la rigueur, on passe peut-être d'un octave. Je n'en sais rien. De toute façon, tout ça, c'est de la technique. Et contrairement à ce que vous pourrez penser, même si je parle technique, c'est quelque chose que je regarde quand même relativement de loin. Hein. Donc, je peux expliquer des fonctionnements de choses, mais je ne suis pas collé à la technique. Hein. Je ne suis pas un fondu technique, comme j'ai été d'ailleurs à une certaine époque, et je me fous, sincèrement, qu'on soit 432 ou 440, parce que on pourrait mettre le nombre de Hertz qu'on veut, qu'est-ce que ça changera dans ton processus évolutif? Rien. Parce que ça, c'est une information pour le mental. Point barre. Et en fait, il n'a pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de ça pour être dans votre être-té. Alors ensuite, un autre thème sur les agressions 3D. Il y a Tara qui dit, Laurent, tu dis que s'il y a atteinte physique directe à notre sécurité physique, il faut réagir. Peux-tu illuminer mieux? En clair, c'est pas parce qu'on est cool, avec le sourire sympa, que tu vas te laisser te prendre une mandale ou, je dirais, un bastos que quelqu'un va t'envoyer. C'est-à-dire que l'objectif n'est pas d'attaquer ou quoi que ce soit, mais il n'a jamais été dit qu'il fallait pas se défendre. Donc se défendre, c'est esquiver les coups. Et la meilleure façon d'esquiver les coups, c'est d'éviter la situation. Et pour éviter la situation, bah, le meilleur truc, c'est de ne pas être là. Donc, si vous allez au front, comme dirait l'autre, si vous allez rencontrer du préhumain qui est colérique et qui vocifère sur la voie publique, et vous essayez de lui expliquer calmement, avec un amour inconditionnel, un sourire jusqu'aux oreilles, que tout est paix, que tout est parfait, c'est sûr que s'il vous regarde et commence à prendre un pavé pour vous le balancer dessus, c'est sûr qu'il faut se protéger. Mais se protéger, la première chose, ben, c'est d'éviter d'abord d'aller au contact. Parce que il n'y a pas photo. C'est comme quelqu'un qui dit maintenant je suis en 4D, je communique avec la nature, et puis qui va voir un grizzly, puis qui dit ah mon frère je t'aime, et puis l'autre d'un coup de patte il lui fout. Mais ça coûte griffe quoi. Je veux dire, faut quand même pas être con quoi. Hein? C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est en 4D et qu'on est dans le don inconditionnel qu'il faut manquer de sagesse. Donc la plus grande de toutes les sagesses pour éviter la défense physique, hein, c'est-à-dire d'abord toutes les agressions physiques, eh bien c'est de ne pas être là où il y aura agression physique. Voilà. Hein? Donc, mais faut pas se la jouer comme une certaine parabole le dit, si on donne une bof, tu tends l'autre joue, quoi. Ça, c'est comment dire une métaphore. C'est-à-dire, on te met une baffe, ok, d'accord. Tu dis, bah écoute, tu viens de me lancer un argument, c'est super. Bah, maintenant, balance-moi un deuxième, et puis après un troisième, puis après un quatrième. Vous savez, ça fait partie des fameuses petites locutions que je vous avais données. Mais encore? Et alors? Et vous continuez comme ça, puis l'autre, il va se vider, puis quand il aura tout vidé, il arrêtera, quoi. Donc, c'est ça la métaphore. Quand on présente une joue et puis l'autre. C'est-à-dire que je te mets mon côté gauche, mon côté droit. Et on va s'amuser comme ça avec la dualité, mais c'est virtuel, bien sûr, ce n'est pas physique. Donc ne confondez pas les métaphores, les choses qui sont faites pour vous faire comprendre matériellement les choses, parce que ce sont d'abord des vues de l'esprit, mais ce n'est pas des actes dans la matière. Dans le sens, vous allez être l'enfant de cœur, là, dans la petite chemise blanche, face à l'oppresseur qui commence à prendre la batte de baseball et qui dit, attends, t'en v'là, hein. Et puis tu souris, tu dis, ben, tu peux m'en donner un autre. Non. Ça, c'est une interprétation, je dirais, malheureuse. Le monde de 3D, s'il vit, est-il aujourd'hui encore légitime de vouloir fonder une famille quand on a connaissance de l'ascension, ou est-ce le mental ego qui veut à sa façon nous obliger à rester dans ce monde de 3D? Alors, fonder une famille, c'est un truc, je suis désolé, de 3D. Hein, parce que fonder une famille, ça veut dire reproduction. Ça veut dire, y a un papa, il y a un maman, et ça va faire du petiot, et puis on va donner à bouffer à tout ça, comme on peut, et puis bah, quand ils seront grands et qu'ils seront partis, bah, on nous mettra au cimetière, quoi. Je résume, mais c'est à peu près ça. Donc, quand on a connaissance du processus de l'ascension, le plus grand mariage que vous pouvez faire, c'est celui avec vous-même. C'est-à-dire de pouvoir faire épouser votre masculin et votre féminin. Et là, vous fonderez une famille. Et les enfants, ça ne sera pas des bambins qui hurleront dans tous les coins. Ça sera quelque chose de beaucoup plus puissant, puisque ça sera tout simplement vibratoire. Et donc, quand vous enfantez en 4D, vous enfantez la joie. Bien sûr, des gamins, c'est en joie. Sauf quand ils pleurnichent pas. Sauf quand ils crient pas. Sauf que. Enfin, ils crient pas, ça dépend quel genre de cri, on est d'accord. Mais quelque part, comprenez qu'il faut sortir du plan matériel. Quand nous passons en 4D, nous sommes sur un plan plus vibratoire. Donc, transcrivez, je dirais. La notion de 3D en 4D. Donc, quand nous sommes en 4D, fonder une famille, c'est tout simplement se rapprocher des gens qui sont aussi en 4D. C'est ça, fonder une famille. Donc, pour moi, depuis très longtemps, ma famille, c'est pas, je dirais, mon ex et les enfants, c'est pas mes parents et mes frangines. Non. Ça a été, on peut dire, l'inconnu. Le frère que je ne connais pas et que je ressens très bien quand je suis en sa présence. C'est ça ma famille. Donc tous les trucs tribaux, s'est dégagé depuis longtemps, on va dire. Hein? Donc, ça n'empêche pas d'avoir du respect pour ses frangines, pour ses parents, pour ses ex, pour ses enfants. Pas du tout. Mais c'est une vision différente. Hein? Donc, le mental ego qui veut nous obliger à rester dans la 3D, pour moi, c'est évident qu'aujourd'hui, quelqu'un qui dit « je veux me marier, avoir des gosses » et c'est un réflexe 3D très lourd. Ça, c'est clair. Une question de Patricia. Voilà ma question. Comment fait-on pour sortir de son scénario de naissance? J'ai l'impression qu'il est enkysté dans mes cellules portant le programme. Non, tu n'auras pas ce qui est bon pour toi, saboteur. Comment lâcher tout ça? Vibrer ailleurs et autrement. Ben, c'est simple. Nous avons notre programme, il est forcément enkysté dans notre ADN puisque c'est notre contrat de vie. Donc notre contrat de vie est. Et ça, tu ne pourras jamais l'ôter. Donc le but n'est pas de le fuir, mais de le regarder en face et de dire, ok, si je suis venu dans cette vie apprendre 3 ou 4 choses, eh ben, et suivre 3 ou 4 cours, ben, je vais aller les suivre et je vais les apprendre. Et c'est tout. Ce n'est pas en disant je vais aller voir ailleurs, parce que ça s'appelle l'école buissonnière, que ça va solutionner le problème. Pas du tout. Donc, il n'y a pas à lâcher tout ça. Ce qu'il y a à lâcher, c'est la résistance que tu as par rapport à ça. Si moi, je n'avais pas fait mon destin, suivi ce que ma petite voix m'a dit, bah, je serais toujours en train de ramer, de trimer comme un mec de 3D. Et je pense que ça aurait été assez colossal. Dans le sens que plus on a de capacité et plus les ennuis sont en conséquence. Donc, quelque part, j'avouerai que c'est aussi ça qui m'a fait avancer, quoi. Hein? Ben, je ne sais plus quel âge j'avais, mais j'étais pas très 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 vieux, comme on dit. J'étais dans la vingtaine, un truc comme ça. Et j'avais lu dans un bouquin, mais... j'avais déjà eu des prémices de ça, c'est-à-dire que il y a une parabole dans la Bible qui dit la parabole des talents. Alors les talents, quand vous êtes gamin, ça serait comme des dons, quoi. Et puis, ben, on vous apprend que les talents, c'était une sorte de monnaie au Moyen-Orient, etc. Bon, d'accord, tu dis, bon, c'est une monnaie, ok, d'accord, très bien. Alors, ben, la parabole dit, voilà, il y a le roi qui doit se casser et... qui doit laisser son royaume à ses serviteurs pour un certain temps. Et donc, bah, il en chope un et il dit, bah, écoute, toi, je te donne un talent, et puis quand je reviendrai, bah, j'espère que tu auras doublé la mise, point barre. Il en chope un deuxième, puis il lui dit, toi, je te donne 2 talents, et quand je reviendrai, bah, tu m'en donneras le double, hein, d'accord? Et puis, ben, il en chope un autre, qui était quand même quasiment pratiquement son bras droit, il lui dit, toi, je te donne 5 talents, mais quand je reviens, tu as doublé, hein, d'accord? Donc, il était tout à fait juste, il demandait simplement un doublement, on va dire, des dons qu'il avait donnés. Parce que quand on dit talent, ça veut dire don. Donc, quand tu as un don, on te demande simplement de le faire profiter. Quand tu en as 2, bah, tu le fais profiter aussi, doublement. Mais quand tu en as 5, tu le fais aussi, profiter doublement. Et donc, la suite de l'histoire est relativement simple. Quand le maître est revenu, eh bien, il a appelé celui aux 5 talents d'abord, parce que bon, c'était quand même là où il avait mis plus de pognon, on peut dire, hein, plus d'espoir. Et l'autre y revient et dit, maître, voilà, m'a donné 5 talents, eh bien voilà, en voilà 10. Alors là, le maître lui dit, donnez-lui mon royaume. Ok, très bien. Il va dire, classe. Et puis, après, il appelle le deuxième... le deuxième gars, et puis il dit, voilà, je t'ai refilé 2 talents, qu'est-ce que tu m'offres maintenant? Il me dit, voilà 4 talents. Et l'autre, il dit, putain, classe. Alors toi, tu deviens venir un seigneur et je t'offre une ville avec. Et l'autre, il repart, bah, super. Il dit, voilà, maintenant je suis seigneur, très bien. Et puis, ben, il y a le gars, le troisième, qui arrive et qu'on lui dit, ben voilà, vous avez, je t'ai refilé un talent, maintenant, qu'est-ce que tu me donnes? Il dit l'autre, ben, j'ai pas pris de risque, parce que je pouvais le perdre, et donc ce que j'ai fait, je l'ai enterré dans mon jardin, et puis ben voilà, je l'ai déterré, donc je vous rends votre talent. Et là, le maître, il dit, ben écoute, tu vaux que dalle, tu vaux que chic, alors on va te prendre tout ce que tu as. On dit, mais attends, je comprends pas, là, je lui redonne exactement ce qui m'a refilé et il me fout à poil, quoi. Et ben, la leçon est relativement simple quand vous transposez. Quand un individu vient sur Terre, qu'il a un talent, et qui l'enterre dans son inconscient, et qui n'en fait rien, et puis après, quand il revient à l'examen final, il dit, bah écoute, je te refile, il m'a servi à rien parce que j'avais les jetons et les chocottes, j'ai rien risqué. L'autre, il dit, bah t'as même pas le droit de vivre. Pourquoi je vais te refiler un véhicule d'incarnation puisque tu t'en sers pour rien? Donc, terminé. Hein, on verra pour une autre fois. Hein. Par contre, celui qui avait deux talents, bah, il a fait son job. Et puis celui qui en avait cinq, il en a fait son job. Et à cette époque où j'étais, fin de dizaine, enfin pas encore dans la vingtaine, j'avais déjà chopé cette parabole qui m'intriguait parce que j'avais découvert quand même au fil du temps que j'avais quand même quelques petites capacités parce que j'étais un innocent d'une certaine manière. Quand j'étais à l'école, je me disais, les copains, ils sont de mauvaise foi, putain, ils en branlent pas une, et puis après, ils s'étonnent qu'ils ont des mauvaises notes. Moi, je fous rien, mais bon, j'ai des bonnes notes, mais bon, faudrait qu'ils fassent un petit effort quand même, quoi. Et donc, j'étais franchement nul, quoi. Je veux dire, quand je suis sorti de l'école à 18 ans, j'étais le majeur de la promo, je ne savais même pas. Moi, j'étais comme tout le monde, quoi. Je veux dire, ni supérieur, ni inférieur. Point barre. Je m'en rendais pas compte. Et c'est un copain plus tard qui m'a dit, il dit, écoute, j'ai vu tel directeur, il m'a dit c'était qui le meilleur de ta classe, j'ai dit que c'était toi, t'as rendez-vous samedi pour aller voir pour un job. J'ai dit comment? C'était moi le meilleur, comment ça? Donc je tombais des nues, hein, franchement. Et donc, suite à des petits trucs comme ça, j'ai découvert qu'en fait j'avais des dons. Et quand j'ai attaqué mon début de vingtaine, j'ai commencé à pas claquer les genoux, mais à me dire, si t'as autant de dons que ça, est-ce qu'il est raisonnable que tu fasses pareil que tout le monde? Et donc ça a été effectivement un début de réflexion en disant, si on te donne 5 talents ou 10 talents, eh ben, il va falloir que tu prennes des risques certainement supérieurs, enfin d'une certaine manière en termes d'ampleur et d'impact autour de toi, que celui qui n'en a que 2. Donc si je vous dis, voilà, je vous donne 200 euros, prenez un risque, et puis vous allez prendre un risque à 200 euros. Puis si je me ramène et je vous dis, voilà, là, 2 millions d'euros, quand je reviens, tu m'en donnes 4. Vous n'allez pas vous la jouer pareil. Donc même si on parle de doublement uniquement, eh bien on voit qu'à ce moment-là, le risque à prendre, les responsabilités attenantes ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors bien sûr, pour l'individu qui n'a que 2 talents, doubler le truc, ça lui paraît énorme. Donc, nous recevons selon nos talents. Mais il faut être à la hauteur, on est d'accord. Donc, pour moi, je ne sais plus c'était quoi la question au départ, eh bien, il y avait à faire quelque chose par rapport aux talents qu'on m'a refilés, c'est tout. Et donc, je n'ai pas dit, je vais faire comme tout le monde, je vais être peinard, et puis quand je me présenterai le jour du jugement dernier, on me dira, alors qu'as-tu fait? Et puis je dirai, voilà, j'ai planté mes choux, j'ai récolté mes salades, j'ai fait 3 gamins, je les ai élevés, je suis content, j'étais chrétien, et j'ai donné de temps en temps des sous au curé, quoi. L'autre, il va te regarder, il va dire, attends, mon coco, là, ça c'était pour Pékin moyen à 1 euro, là, enfin à un talent. T'as t'en donné les 50, qu'est-ce que t'en as fait des autres? Ah bah je les ai enterrés dans le jardin, dans mon inconscient, parce que moi j'en avais rien à battre. Hein. Je prends aucun risque. Et je vais être en sécurité. J'espère que vous avez compris à travers cette métaphore qui était écrite dans la Bible, comment ça peut changer la vision que l'on peut avoir de soi-même. Donc plus vous allez découvrir que vous avez des talents, que vous avez des dons, que vous avez des capacités à faire des choses, est-ce que vous allez les laisser sous le boisseau? Est-ce que vous allez laisser sous la table simplement pour la bonne raison d'être comme tout le monde? Eh bien moi, j'étais pas comme tout le monde. Donc je ne me suis pas saoulé la gueule tous les samedis soirs comme tout le monde. J'ai pas fumé comme tout le monde. J'ai pas fait comme tout le monde. Parce que je savais que je ne pouvais pas faire comme tout le monde. Mais ça a été une prise de conscience, on va dire. À un âge relativement précoce. Donc quand je dis précoce, c'est pas 50 ans, quoi. Voilà. Donc nous avons chacun un destin, une route qui est tracée. Certains seront des deux chevaux, d'autres des Ferrari, d'autres des TGV. Il faut assumer, c'est tout. Et si on est venu en étant un TGV, eh bien c'est parce qu'on en a les capacités. Donc il faut se conduire comme un chauffeur de TGV. et non pas du papier avec sa petite deux chevaux pour aller traire Marguerite dans le champ, dans le pré d'à côté. Bref, attendez, je vais faire une petite coupure.